Voilà, ce matin, on va continuer et même terminer notre étude sur l'épître aux Colossiens. On est arrivé à la fin et nous allons ouvrir la Bible dans Colossiens chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 7 jusqu'à la fin. Colossiens 4 à partir du verset... Non, excusez-moi, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tichique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen. Alors c'est intéressant de voir une épître du début à la fin, de voir son évolution. Et ici, comme bien souvent, l'apôtre Paul termine son épître par des salutations et par quelques dernières recommandations. Alors, il y a plusieurs choses à retenir, mais ce matin, j'aimerais prendre ce dernier passage des Colossiens sous l'angle de la mission. Vous savez que la mission... ce n'est pas une option dans la vie chrétienne, ce n'est pas une option pour l'Église, mais c'est une priorité pour l'Église. Hein, c'est le dernier commandement que Jésus a laissé à l'Église, sa dernière recommandation, et nous savons combien cela est important pour l'Église de prendre part activement à la mission de l'Église qui est de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et de faire des disciples. Donc la mission est vraiment quelque chose qui doit être dans l'ADN et c'est dans l'ADN de l'Église, c'est sa priorité et la mission bien sûr commence à notre porte pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, hein. Il y a l'expression de Jérusalem la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça commence à notre porte jusqu'à aller au loin. Le soutien que nous accordons pour l'œuvre missionnaire est très vaste puisque ça va des évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle, ça va aussi de ceux qui suivent les églises, de ceux qui forment des disciples, des ouvriers, ça passe aussi par l'œuvre sociale, par la traduction de la Bible, etc. etc. Donc l'œuvre est immense et c'est là donc ce que l'Église prend à cœur. Il n'y a pas, je dirais même qu'il n'y a pas de mission sans Église. Il n'y a pas de mission sans Église. Une Église missionnaire se montre au moins par trois choses importantes. La prière, le soutien, ils font partie des soutiens, donc les dons et autres, et aussi l'envoi d'ouvriers. Alors, l'apôtre Paul, dans ce passage, commence par nous inviter à la prière, de persévérer dans la prière, et il dira de prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. On voit ça du verset 2 au verset 4, où il parle de l'importance de la prière. Et Paul nous enseigne d'y persévérer et donne ce sujet de prière pour que Dieu lui ouvre encore une porte pour la parole, en sorte qu'il puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel il est dans les chaînes et le faire connaître comme il doit en parler. Alors, le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer cette parole. Et il est évident, et nous le voyons bien encore aujourd'hui, qu'il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, qu'il y a des blocages, des oppositions pour nous y rendre, et ça ne se fait pas sans combat spirituel. Si l'Église relève le défi, si le Seigneur nous a commandé de le faire, nous savons aussi que nous avons un ennemi, un adversaire qui s'oppose. C'est un adversaire, il s'oppose à ce que nous répandions l'Évangile et il tente à faire des blocages pour nous empêcher d'aller annoncer l'Évangile. Et ces blocages sont divers et variés. Il y a le blocage de la peur et il cherche à intimider le peuple de Dieu pour nous empêcher d'aller dans certains pays, voire même en France, j'allais dire dans certains quartiers où il est très dangereux, même maintenant en France aujourd'hui, d'aller dans certains quartiers et de s'afficher en tant que chrétien et d'annoncer l'Évangile. On peut en France aujourd'hui risquer sa vie à cause de cela. Donc on voit que la peur est un élément que le diable utilise pour nous bloquer, mais il n'y a pas que la peur, bien sûr, il y a différentes choses. En tout cas, on comprend bien la nécessité de prier pour que Dieu ouvre des portes pour la parole. Et l'apôtre Paul dit, pour lequel je suis dans les chaînes, même s'il est en prison, on sait que ça ne retient pas la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Timothée, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 9, de Timothée chapitre 2 et au verset 9, il est écrit ceci, « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Voilà, l'apôtre Paul était considéré comme un malfaiteur, même s'il ne l'était pas. Il était en prison à cause de sa foi, bien sûr. Mais il dira que si lui, il est en prison, s'il est lié, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et le Seigneur fait en sorte que cette parole puisse continuer de toute manière à circuler. Et même, nous le voyons aujourd'hui avec ce confinement qui, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays, nous voyons que ça n'a pas lié la parole de Dieu, ça n'a pas retenu la parole de Dieu. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et j'allais dire à l'inverse, si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc Dieu est celui qui ouvre des portes, même dans des situations bien difficiles, même si nous avons l'impression, nous, d'être liés, d'être bloqués dans nos actions, la parole de Dieu continue à circuler et nous donne des opportunités pour répandre l'évangile. Et les témoignages sont même nombreux de ceux qui sont même, j'allais dire, dans les hôpitaux ou autres, dans des endroits où ils sont comme bloqués. Mais là encore, eh bien, il y a des personnes qui se convertissent dans les hôpitaux, dans les prisons. D'ailleurs, pour reprendre le cas de l'apôtre Paul, nous savons que lorsque Paul a été en prison, plusieurs se sont convertis à son contact. Il parle d'Onésime au verset 9, ici, et quand on lit l'épître à Philémon, on voit que Onésime s'est converti au contact de l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison. Et dans l'épître aux Philippiens, on voit aussi qu'il parle du prétoire, et que là, tout le monde savait que c'était pour Christ qu'il était dans les chaînes. Donc, le fait que Paul soit en prison n'a pas bloqué la parole de Dieu. Bien au contraire, la parole de Dieu a continué à se répandre, et c'est même en prison, d'ailleurs, qu'il a pu écrire quelques-unes de ces épîtres que nous connaissons et qui sont si utiles à l'œuvre de Dieu. Alors, que les portes soient ouvertes ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition. On le voit dans plusieurs passages, on voit les difficultés que Paul a eues. Quand on lit les Actes des Apôtres et les voyages missionnaires de Paul, on voit que Dieu lui ouvrait des portes, mais les combats et les difficultés, les oppositions et les persécutions allaient avec. Dans 1 Corinthiens au chapitre 16 et au verset 8, l'apôtre Paul dira ceci, 1 Corinthiens 16, verset 8, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Donc on voit à Éphèse, la porte était ouverte, elle était grande, et d'un accès efficace. On voit dans les Actes des Apôtres comment l'évangile s'est répandu à Éphèse. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, on voit qu'il y a eu des difficultés, des adversaires. La ville s'est soulevée contre lui. Enfin, les fabricants d'idoles se sont soulevés contre lui, etc. Donc, qu'une porte soit ouverte ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de difficultés. On sait comment Paul a été en Macédoine dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Il cherchait son chemin à plusieurs reprises jusqu'au moment où Dieu lui a parlé au travers d'une vision, la vision qu'on appelle la vision du Macédonien, hein, passe en Macédoine et secours-nous. Alors voilà. L'apôtre Paul donc est parti avec son compagnon Silas pour aller en Macédoine. La porte s'est ouverte, la Macédoine. Mais ce que l'on remarque, c'est que pratiquement dès le début de sa mission en Macédoine, l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. Hein, et c'est là qu'il s'est retrouvé en prison avec Silas, et il priait, il chantait les cantiques dans la prison, il louait le Seigneur. Mais même là, on voit que dans cette prison, d'une manière tout à fait miraculeuse, le geôlier et sa famille se sont convertis au Seigneur. Hein. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, la porte de la Macédoine était ouverte, il y a eu de l'opposition des adversaires, mais Dieu a continué encore à se glorifier, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et que Dieu nous aide vraiment à être persévérants dans la prière et de demander à Dieu que des portes nouvelles soient ouvertes, comme dit l'apôtre Paul ici, pour annoncer le mystère de Christ et le faire connaître comme nous devons en parler. Prions pour cela, c'est important. Prions pour ces endroits, même en France, qui sont difficiles d'accès. Prions pour les pays qui sont fermés. Dieu est grand pour ouvrir ces pays, pour ouvrir ces régions. Il est tout puissant pour le faire, nous n'en doutons pas. Donc ça, c'est le rôle de la prière, et ça doit être quelque chose qui doit prendre une place importante dans l'Église. Et puis l'apôtre Paul continue à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, il parle de notre conduite et de nos paroles. Là, c'est la mission de proximité, j'allais dire, comme je le disais tout à l'heure, la mission, elle commence à notre porte. Hein, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. C'est notre témoignage par notre manière de vivre, par notre comportement. Et donc, on voit, il dit, hein, envers ceux du dehors, c'est-à-dire, cette expression représente ceux qui ne sont pas à Christ, ceux qui ne sont pas membres de l'Église de Jésus, on pourrait dire les inconvertis, ceux que nous côtoyons les uns et les autres dans notre voisinage, sur les lieux de travail, même au sein de nos propres familles. Donc c'est la mission de proximité, et c'est pas toujours facile parce que certains sont difficiles, certains sont durs, certains sont provocateurs, indifférents à la foi, etc., etc. Et plus nous avançons d'ailleurs, plus nous avançons dans le temps, plus cela devient difficile. L'apôtre Paul le dit dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 3 et au verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, etc. etc. » Donc, on voit que les temps sont difficiles à cause du cœur de l'homme qui devient de plus en plus dur. L'amour du plus grand nombre disparaît, hein, se refroidit. Donc, forcément, les temps sont difficiles. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors et racheter le temps. Racheter le temps. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul emploie la même expression, racheter le temps, et il précise, il donne une précision supplémentaire, il dira, car les jours sont mauvais. Voilà, car les jours sont mauvais. Mais dans ces jours qui sont mauvais, le peuple de Dieu doit briller, hein, par son comportement, doit apporter cette lumière. Nous savons que Jésus avait pu dire dans Jean chapitre 9, que la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais pendant que nous sommes là, dans ce temps-là, nous voulons racheter le temps, tant que nous en avons la possibilité et l'occasion, eh bien, être ses témoins par notre vécu et aussi par nos paroles. Il dira au verset 6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Nous sommes toujours là dans la mission de proximité, mais maintenant par nos paroles. C'est important d'avoir un bon comportement et c'est tout aussi important de communiquer quelque chose par nos paroles. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et l'apôtre Paul dira ici que nos paroles doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun. Rappelons-nous qu'au chapitre 3 et au verset 8, l'apôtre Paul, on l'a vu il y a 15 jours, 3 semaines, nous avait dit donc de renoncer à toute mauvaise parole qui pouvait sortir de notre bouche. Mais maintenant, à l'opposé, de notre bouche doit sortir des paroles qui communiquent une grâce et qui sont assaisonnées de sel. Donc on retrouve aussi quelque part cette pensée dans l'épître aux Éphésiens où l'apôtre Paul nous parle de cela dans Éphésiens 4, verset 29. Vous pourrez le lire. Donc, elle doit être accompagnée de grâce, elle doit communiquer quelque chose et aussi pas être insipide, sans saveur, assaisonnée de sel. Et on sait que le sel donne de la saveur. Non seulement il donne de la saveur, mais il empêche les aliments de pourrir, tout simplement. Et Jésus nous avait dit aussi que nous sommes le sel de la terre. Donc le sel donne de la saveur à nos paroles. Nos paroles seraient insipides, sans saveur, si c'était que de la théologie. Mais elle doit être empreinte de conviction, de foi, de vérité, de sainteté, de vécu. Ces paroles-là doivent être assaisonnées de sel pour j'allais dire, donner de la saveur à ce que nous disons, et que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide à être ces dispensateurs de la parole du Seigneur qui communique une grâce, et cette parole assaisonnée de sel. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur la parole qui doit sortir de notre bouche, mais nous voyons combien cela est important. Surtout que les contradicteurs ont des arguments, il nous faut aussi être sûrs de notre foi, connaître la parole de Dieu, connaître les fondements de la foi pour pouvoir répondre à ceux qui demandent raison de notre foi. On va continuer notre parcours sur cette épître. On voit que l'apôtre Paul aussi parle de plusieurs de ses équipiers, de plusieurs de ses compagnons. Et je dirais, pour rester dans cet angle sur lequel nous voyons ce passage, c'est-à-dire sur l'angle de la mission, je dirais que la mission, elle ne se fait pas seule. Elle ne se fait pas seule. L'apôtre Paul n'était pas seul. Il cite ici plusieurs de ses compagnons, de ses collaborateurs, et il en désigne quelques-uns, et avec parfois des mots forts, des mots importants. Hein, il emploie le mot « compagnon de service hein, » pour Tychique, par exemple. Il emploie le terme aussi de « compagnon de captivité » pour Aristarque. On voit citer des proches compagnons de Paul qui étaient là à ses côtés pour servir, à ses côtés même en prison. Et Paul donc avait besoin de ces hommes-là qui étaient avec lui. Et dans l'œuvre de Dieu, ceux qui ont oublié cela, ceux qui ont voulu partir seuls, n'ont pas duré dans le temps. Il est important, parce que l'œuvre est difficile, compliquée, voire dangereuse, et que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, nous avons besoin de comprendre, de réaliser qu'il y a ceux qui sont sur le terrain, mais qu'ils ont besoin d'être soutenus par une équipe. Alors, l'apôtre Paul en cite d'autres. Hein. Il cite, par exemple, aussi Justus, hein, Jésus appelé Justus, voilà, il avait un surnom. Et il précise, ils sont du nombre des circoncis, avec Aristarque et Marc, qui ont travaillé avec lui. Alors, on sait que l'apôtre Paul a eu des difficultés avec les circoncis, mais ils n'étaient pas tous pareil, et certains donc étaient vraiment dans la foi, une foi saine et équilibrée. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que l'équipe de Paul était très diversifiée. Il y avait ceux qui étaient d'origine juive, comme cela, et puis ceux qui étaient d'origine grecque, qui étaient d'origine, j'allais dire, païenne, et qui se sont convertis à Jésus. Bon, voilà, il y en a plusieurs. Il y a Luc, le médecin bien-aimé, qui était grec. Il y a Onésime, enfin, il y en a quelques-uns. Donc, son équipe est quand même assez diversifiée. Et c'est important aussi pour l'œuvre de Dieu que tout le monde ne soit pas pareil, mais qu'il y ait cette diversité où chacun peut apporter son talent, apporter sa personnalité aussi, et tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il est, tout ce que, pour que l'œuvre de Dieu, la mission, puisse ainsi être plus forte, plus compétente, plus efficace. Et merci Seigneur pour tout cela. Et on voit combien ces collaborateurs ont été précieux pour Paul. Ils ont été là pour l'encourager. Et il dira même donc de cela qu'ils ont été pour moi une consolation. Et l'apôtre Paul était en prison, donc il avait besoin de ces personnes. Et puis on voit que certains, il les a envoyés spécialement, comme Tychique et comme Onésime, pour informer l'Église de quelle était leur condition. Alors on voit ça du verset 7 au verset 9. Et ça, je dirais que c'est important aussi dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre missionnaire, je le disais, elle ne se fait pas sans l'Église. Mais pour que l'Église soit tenue informée, il est important qu'elle sache la réalité de ce que vivent les frères et sœurs qui ont été envoyés au loin, de ceux qui sont partis pour annoncer l'Évangile, pour faire l'œuvre de Dieu. Il est important, cela va alimenter les sujets de prière. C'est important aussi parce que l'Église va se sentir vraiment participante à cette œuvre. Comme je le disais, l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas seule. Il y a ceux qui sont en équipe sur le terrain, mais l'Église, elle est aussi dans cette équipe-là, dans son entier. Il y a une interactivité entre l'Église et ceux qui sont sur le terrain en mission. Cela est important pour savoir, pour se tenir dans la prière. C'est important pour se souvenir de la situation dans laquelle sont nos frères et sœurs. D'ailleurs, il termine par ça au verset 18. Hein. « Souvenez-vous de mes liens. » Donc, on voit que l'apôtre Paul est soucieux de savoir et de faire connaître leur situation. On retrouve ça dans d'autres épîtres. Et c'est important pour que l'Église sache ce qui se fait sur le terrain, afin qu'elle reste mobilisée. Ce que l'on remarque encore aussi, c'est que même si cette épître est adressée aux Colossiens, on voit aussi que les églises étaient en réseau. Elles étaient en réseau. Il y avait l'église, je dirais même les églises à Colosse, puisque il parle de Nymphas. On sait aussi que Philémon avait une église dans sa maison et Philémon était un chrétien de Colosse. Donc, comme on le voit aussi sur Éphèse, hein, il y avait plusieurs églises dans une même ville. Donc les églises étaient en réseau. Puis, il parle aussi de l'église qui est à Laodicée, celle à Hierapolis. Il demande donc de saluer l'église de Laodicée et celle qui est chez Nymphas. Et puis il y a aussi l'église à Hierapolis. Il demande aussi à ce que les lettres circulent entre les églises, hein, faites en sorte que cette lettre soit lue dans l'église des Laodicéens et puis que vous puissiez lire celle qui arrive de Laodicée. Donc, on voit que les églises étaient en réseau. On voit ça aussi quand on lit les Actes des Apôtres, quand on lit aussi les Épîtres aux Corinthiens, on voit que par rapport aux dons, aux collectes, ça allait d'église en église. Ils collectaient les dons pour l'œuvre de Dieu aussi. Cela permettait une plus forte synergie, j'allais dire, et soutien pour l'œuvre de Dieu. Ça allait pour le soutien aux pauvres, aux nécessiteux, et aussi pour ceux qui étaient envoyés. Et quand cela ne pouvait pas se faire, cela manquait à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, on peut lire dans Philippiens chapitre 4, verset 15. Philippiens chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous envoya déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc l'apôtre Paul, bon, on pourrait lire tout le chapitre 4 des Philippiens, mais on ne va pas le faire, mais a connu des temps difficiles, hein, et c'est là qu'il va écrire « Je sais vivre dans l'humiliation et dans la pauvreté, dans l'abondance. » Donc il a eu faim aussi, et il sait ce que c'est que d'être privé. Et à un moment donné, il s'est retrouvé que seuls les Philippiens l'ont soutenu. Seuls les Philippiens ont soutenu. Donc on voit qu'il y a eu un manque, et une église par elle-même ne peut pas, bien sûr, subvenir à tout le besoin. C'est pour cela qu'il y a une nécessité de fonctionner en réseau d'églises pour que l'œuvre de Dieu puisse perdurer dans le temps et puisse se faire efficacement. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide à être et à continuer à être, en tout cas, ces églises missionnaires qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu qui se fait au loin, comme auprès d'ailleurs, parce qu'auprès il y a aussi de grands besoins. Que le Seigneur nous aide à être ces missionnaires, j'allais dire, les uns et les autres. Que Dieu soit béni Et nous allons terminer avec cela, avec cette épître. Et l'apôtre Paul dira « Que la grâce soit avec vous ». Il termine cette épître avec cela. Et que la grâce de Dieu, en effet, soit sur chacun de nous. Et nous avons besoin de cette grâce. Et que le Seigneur nous renouvelle les uns et les autres dans notre service pour l'avancement de l'Évangile.